السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، la fois dernière on s'est arrêté dans les règles du jeûne, la pratique du jeûne. Tous les mercredis on fait la jurisprudence, fiqh al-siyam, la jurisprudence du jeûne, c'est-à-dire qu'on s'attache à voir les règles essentielles du jeûne de Ramadan. Et une des principales et premières règles qu'il faut étudier, c'est l'entrée du mois de Ramadan. Comment on annonce et comment on détermine l'arrivée et le début du mois de Ramadan. Et on s'est attaché la fois dernière à rappeler que plusieurs hadiths démontrent clairement que le mois de Ramadan, on annonce son entrée à la vision de la lune. Puisque le calendrier musulman se base sur le calendrier lunaire, et donc c'est en fonction de la lune, mais plus spécifiquement de la vision de la lune. Ça, c'est la première façon de déterminer l'entrée du mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, comme il est rapporté dans plusieurs hadiths, dans les mois lunaires, comme il est rapporté dans plusieurs hadiths, il y a soit 29, soit 30 jours. Il ne peut pas y en avoir moins que 29, il ne peut pas y en avoir plus que 30. C'est soit 29 jours, soit 30 jours. Et donc, lorsque on arrive au 29e jour du mois de Sha'ban, on observe le ciel, et si on voit la lune, le croissant lunaire, qui est cette nuit-là extrêmement fin et difficile à voir, on annonce et on décrète le début du mois de Ramadan. Comme le professeur Hassan a dit, إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ. Si vous le voyez, jeûnez, annoncez le jeûne. C'est-à-dire si vous voyez le croissant lunaire. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. Et si vous voyez le croissant lunaire à la fin du mois du Ramadan, فَأَفْطِرُوا. Rompez. Annoncez la rupture du jeûne. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ. Et si il y a quelque chose qui vous empêche de le voir, فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ. Terminez 30 jours. Puisqu'on a dit c'est soit 29, soit 30. Si quelque chose vous empêche de le voir, c'est quoi? Le professeur Hassim n'a pas précisé. Mais à l'époque, le fuqaha, il disait, ça peut être les nuages, ça peut être le brouillard, ça peut être toutes les, on va dire, les choses naturelles qui peuvent nous empêcher de le voir. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ. Et à notre époque, on peut éventuellement interpréter ou aussi rajouter des choses dans l'interprétation de ces propos, puisque comme on va le voir, si on a le temps aujourd'hui, on parlera du calcul astronomique. On sait, grâce au calcul astronomique et à la science précise aujourd'hui, que la Lune peut être présente, elle est née, mais il est possible qu'on ne puisse pas encore l'observer à l'œil nu. Ou en fonction de l'endroit où on se trouve, on peut la voir, et à un autre endroit, on ne la voit pas. Et en fonction du moment, la science sait dire aujourd'hui, on la verra à tel endroit, de telle heure à telle heure. Et donc, ici le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit ? فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. La deuxième façon d'annoncer l'arrivée du mois de Ramadan, c'est le fait de compléter tout simplement 30 jours. C'est une histoire de cohérence et de logique. On observe le 29e jour, au soir. Si on voit la lune, khlas, on annonce et décrète le début du mois de Ramadan. Et si on ne la voit pas, on complète 30 jours. Juste simplement, je rappelle, avant de passer au sujet d'aujourd'hui, qu'on avait dit la semaine dernière, la vision, très bien, mais la vision de combien de personnes ? Certains savants ont dit une seule personne suffit, d'autres ont dit il faut au minimum deux, Évidemment, quand on dit une seule personne, c'est pas n'importe qui, il faut qu'il soit musulman, parce que c'est une histoire de rite, une histoire d'islam, donc il faut y croire d'abord, avant de le voir. Il y en a, il dit, je crois qu'en ce que je vois. Nous, avant de voir la lune, il faut d'abord croire qu'on veuille bien commencer et arrêter le mois avec la vision de la lune. Taïm. Donc il faut être musulman, il faut être pubère, il faut être mature, et il faut être intègre. Intègre. Il y en a c'est un témoignage. Et comme tous les témoignages en islam, les juristes exigent qu'il y ait une intégrité. On ne demande pas à n'importe qui d'être témoin. Non. Taïb. Donc certains savants ont dit une seule personne suffit. D'autres ont dit deux. Et ici, on avait vu qu'il y avait plusieurs narrations, des hadiths qui penchaient plutôt vers une seule personne, le hadith d'Ibn Omar, et d'autres, et le hadith de l'Arabi, et d'autres hadiths qui penchent pour deux personnes. Et certains ont même été, comme les Hanafites, jusqu'à dire qu'il faut carrément un groupe de personnes, plusieurs personnes qui aient vu la lune. Naam. En particulier, lorsque le ciel est clair, ils ont dit les Hanafites. Pourquoi ? Encore une fois, c'est une histoire de cohérence et de logique pour eux. Ils disent, si, il n'y a qu'une personne qui vient et qui nous dit, j'ai vu la lune. Je l'ai vue. On sait qu'il y a plein de gens qui ont regardé, mais il n'y en a qu'un qui dit, moi je l'ai vue. Les autres, ils disent, non, on n'a rien vu. Et le ciel était clair, il n'y avait pas de nuages, et rien qui empêchait de voir la lune. Ils disent, dans ce cas de figure-là, il nous faut vraiment un groupe de personnes qui l'aient vu, parce que ce n'est pas normal qu'une seule personne ait pu voir la lune, alors que le ciel est clair. C'est une histoire de logique. Et comme on l'avait dit la semaine dernière, c'est quelque chose de convaincant, parce que c'est logique et c'est cohérent. Sauf que la science d'aujourd'hui nous démontre qu'il est possible, parce qu'il est, il est extrêmement difficile de voir la lune le premier soir. Parce que c'est juste quelque chose d'infime, c'est un croissant infime, et surtout, ce n'est pas à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit que tu peux le voir. Donc c'est possible que dans un pays, on demande à plein de gens de regarder, mais elle sera observée que par quelques personnes, parce qu'ils se trouvent au bon moment et ils regardent, ils se trouvent au bon endroit et ils regardent au bon moment. Donc ça, c'est la première façon de déterminer le mois, l'arrivée du mois de Ramadan, la vision oculaire. À présent, akmilul iddata 30, comme il est dit dans le hadith. Complétez 30 jours. Complétez 30 jours. Alors ici, on a plusieurs aussi narrations, plusieurs hadiths. On a ce hadith ici qui nous dit لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. Ne jeûnez que lorsque vous aurez vu la lune, et n'annoncez la rupture du jeûne que lorsque vous aurez vu la lune. Et si quelque chose vous empêche de l'observer, complétez 30 jours. طيب. Dans d'autres narrations, on nous dit فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ. C'est un hadith qui est dans les deux authentiques, que ce soit chez le Bukhari ou Muslim. Et si quelque chose vous empêche de voir la lune, فَقْدُرُوا لَهُ. Alors, on pourrait traduire اُقْدُرُوا لَهُ par plusieurs choses. Ça peut être compris comme déterminez-la, calculez-la, interprétez-la. Et ça a fait l'objet de beaucoup de divergences entre les savants sur comment comprendre faqduru lahu. Sauf qu'on a une version chez l'imam muslim, qui est authentique, puisqu'elle est authentifiée par l'imam muslim, qui nous dit que le prophète sallam a rajouté. Il a dit faqduru lahu thalathin. C'est-à-dire, parce qu'on peut aussi interpréter le terme uqduru lahu par calculer. Et bien compléter, calculer 30. Donc là, c'est moins vague. Ça précise qu'en fait, uqduru lahu, c'est pour dire attendez 30 jours. Faites le calcul. Soit vous l'avez vu, soit de toute façon, ça ne peut pas être plus de 30, donc attendez 30 jours. Naam. L'imam al-Khattabi, rahimahullah, disait que la majorité des savants, que ce soit les anciens ou les contemporains, ils sont tous d'avis. Ils sont tous du même avis à propos de faqduru lahu. Ils disent, le hadith qui est vague, qui est global, et qui dit faqduru lahu, calculé, déterminé, si vous n'avez pas vu la lune, il est expliqué et précisé par la version de muslim, faqduru lahu thalathin, c'est-à-dire calculer 30, compléter 30. Il y avait une compréhension, on va dire, minoritaire chez l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, qui lui considérait que faqduru lahu, calculez-la ou déterminez-la, il disait non, ça veut dire faqduruhu tahta as-sahab. C'est-à-dire interprétez-la sous les nuages. On considère qu'il y a des nuages, ça nous empêche de voir la lune, eh bien on doit considérer qu'elle est là. Mais la majorité des savants considéraient que c'était un avis marginal et que la version de Muslim vient expliquer faqduru lahu, déterminez-la, c'est-à-dire compléter 30 jours. Et donc ça, c'est la deuxième façon de déterminer l'arrivée du mois de Ramadan. Et c'est la même chose à la fin du mois de Ramadan. Mais il y a une différence entre l'arrivée de Ramadan et la fin de Ramadan. C'est que la semaine dernière, on a expliqué que pour annoncer l'arrivée du mois de Ramadan, la majorité des savants considèrent que une seule personne qui ait vu la lune à partir du moment où il est adulte, mature, intègre, musulman, ça suffit. D'autres savants considèrent deux, d'autres comme les Hanafites considèrent un groupe de personnes. Mais pour la fin du Ramadan, la majorité des savants considèrent qu'il faut au minimum deux témoins, adultes, musulmans, intègres, etc. Au minimum deux. Pourquoi cette différence ? Parce qu'ils considèrent que c'est plus grave de annoncer, décréter la fin du Ramadan et donc de dire aux gens « c'est bon, vous pouvez manger et boire » alors que, et qu'il y a une probabilité d'erreur, c'est plus grave de se tromper à ce moment-là que de se tromper au début. Au pire, si tu t'es trompé au début, tu auras jeûné un jour de plus. C'est pas dramatique, c'est comme ça qu'ils le voient. Par contre, si tu te trompes à la fin de Ramadan, ça veut dire que tu appelles les gens à manger et à fêter l'Aïd un jour où, logiquement, c'est encore Ramadan. C'est pour ça que beaucoup de savants changent d'opinion entre l'arrivée du mois de Ramadan et le fait de décréter la fin du Ramadan, et ils considèrent que là, il faut quand même au minimum deux témoins. Wallahu a'lam. Et tout ça, ça nous permet aussi de dire, quand on fait comme ça, al-fiqh, la jurisprudence. Yani, souvent, nous, on va au... ce qui est comme les repas, en fait, ce qui est congelé, ce qui est du tout fait. On va sur Internet, sur Google, et ils nous ramènent une opinion. Hop, elle est toute faite. Et on n'a pas dans notre tête le fait que c'est passé par des siècles de divergences, d'explications, d'interprétation, d'analyse, qu'on a des hadiths et des hadiths, que certains utilisent tel mot, d'autres tel mot, que avant même d'expliquer les mots du hadith, il y a plein de divergences entre les savants. Est-ce que le hadith il est authentique ou pas? Est-ce que véritablement c'est un propos qu'on puisse attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou il n'est pas fiable, il y a des doutes, etc., etc. Et ensuite il y a les opinions, les écoles de pensée, en particulier les plus répandues, c'est-à-dire les quatre, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, rahimahumullah. Mais aujourd'hui, les gens, ils prennent, Cheikh Intel a dit, Taïb, c'est pas une erreur de faire ça. Quand on n'a pas accès à toute la science et à toutes les notions, c'est pas une erreur, au contraire, ça peut même nous sauver de faire confiance en quelqu'un qui a de la science et de prendre ses propos. Par contre, on doit toujours avoir en arrière-pensée que c'est le propos d'un homme et qu'il peut y avoir d'autres hommes qui sont aussi savants que lui, voire plus, qui peuvent avoir une opinion divergente. Non. C'est ça qui est important, de ne pas considérer que ce que j'ai pris comme opinion est sans aucun doute, à 100%, l'opinion qui est réelle. Et ça nous permet de faire une bonne transition pour passer à l'autre façon de déterminer le mois, c'est le calcul astronomique. Vous savez que ces dernières années, il y a beaucoup de polémiques, en particulier sur les réseaux sociaux. Est-ce que les musulmans, pour déterminer l'arrivée du mois lunaire, et en particulier pour déterminer le mois de Ramadan, parce que ça pose surtout problème pour l'arrivée du mois de Ramadan, est-ce qu'on peut utiliser la science, le calcul astronomique? Oui ou non? Alors les savants ont divergé sur cette question. Et nous, on polémique sur la question, c'est différent. La divergence et la polémique, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Les savants, ils divergent, c'est-à-dire ils disent « Non, moi je suis convaincu par ça, mais je respecte ton avis ». Par contre, nous, en polémique, ça veut dire, on dit quoi? On dit, c'est ça la vérité. Et si tu dis autre chose, tu te trompes. Tu es dans l'erreur. Tu es égaré. Tu ne suis pas la sunna. On doit te mettre en quarantaine. On doit mettre en garde contre toi, etc., etc., etc. Alors, posons les choses calmement. Les savants ont divergé, mais la majorité des savants ont toujours considéré, qu'on devait prendre en compte la vision et pas le calcul. La majorité des savants ont toujours considéré qu'on devait prendre en compte la vision et pas... J'induis en erreur quand je dis et pas le calcul, mais plutôt et pas l'astronomie. C'est différent. L'astronomie et le calcul astronomique, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, c'est la même chose. Mais avant, quand les savants ils parlaient avant, c'était quelque chose de différent. Et on va l'expliquer. En tous les cas, sur quoi se basent les savants pour diverger à propos de cette question ? Eh bien, c'est principalement sur les hadiths qu'on a déjà cités, plus un nouveau. Les hadiths qu'on a déjà cités, c'est le hadith dans les deux authentiques, « Fa'in rumma alaykum faqduru lah ». Si quelque chose vous empêche de voir la lune, alors « faqduru lahu », ça peut vouloir dire, comme on l'a dit, « calculer ». Et comment on peut calculer ? À travers la science, l'astronomie. Pas eu. L'autre hadith, c'est le hadith dans le Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Fashahru hakada wa hakada. » Nous sommes une nation, une communauté qui ne calculons pas et qui ne lisons pas. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce propos. Nous sommes une nation, une communauté qui ne calculons pas, qui ne lisons pas. Donc le mois c'est soit ça, soit ça. C'est-à-dire c'est soit 29 jours, soit 30 jours comme on l'a dit tout à l'heure. Alors ici, les savants qui nous disent on ne s'attache pas sur la science, ils disent voilà c'est la preuve. Bah d'abord, il y a tous les hadiths, « Iza ra'aytumuhu fa'aftiru, Iza ra'aytumuhu fa'sumu, Iza ra'aytumuhu fa'aftiru. » Si vous le voyez, alors jeûner, si vous le voyez, annoncer la rupture. C'est bien clair, c'est la vision. Et si on rajoute à tous ces hadiths, ce hadith-ci qui dit « Nous sommes une nation qui ne calculons pas, qui ne lisons pas, et tout ce qu'on sait, c'est que le mois, c'est soit ça, soit ça, c'est soit 29, soit 30. » Donc, entre guillemets, ne cherchons pas plus loin. Soit ce sera 29, soit ce sera 30. On regarde, on a vu la lune, c'est bien, on ne l'a pas vu, on attend que 30 jours terminent. C'est aussi simple que ça. Par contre, certains savants, même s'ils étaient minoritaires, ont eu une autre opinion. Parmi lesquels, Ibn Qutayba, le plus connu c'était le Mutarrif Ibn Abdillah, qui a beaucoup défendu l'idée qu'il fallait se baser sur l'astronomie pour déterminer l'arrivée et la fin du mois de Ramadan, ou encore Abu al-Abbas ibn Suraïj et d'autres, même s'ils restent minoritaires. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il est authentique, on dit que ce propos, il doit être attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a véritablement dit, nous sommes une communauté ummiya, illettrée. La nahsubu, la naktubu wa la nahsubu. Nous n'écrivons pas et nous ne calculons pas. C'est-à-dire, le professeur Anselm, ici, il nous dit, cette minorité de savants, il ne fait que décrire la communauté de son époque. Et ils disent, mais si on comprend ce hadith comme les autres, ça veut dire qu'on est en train de dire aux gens, surtout ne lisez pas, n'écrivez pas, n'apprenez pas. Est-ce que le professeur Anselm, il dit ça dans ce hadith ? Abadan, c'est impossible qu'il puisse dire ça. Alors que c'est lui-même qui a reçu le premier mot qui a été révélé dans le Coran, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et le prophète sallam, pendant toute sa vie, il a appelé et il a incité ses compagnons à apprendre à lire, à apprendre à écrire, à apprendre les sciences tout simplement. Donc ils disent, c'est une incohérence. Et c'est quelque chose qui vient en contradiction avec la religion que de se baser sur ce hadith pour dire on ne détermine pas l'entrée du mois avec l'astronomie ou le calcul astronomique. Parce que le hadith, il ne fait que décrire comment était la nation de l'islam et la communauté de l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des gens étaient illettrés. La plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire. Même les plus intelligents et les plus instruits d'entre eux, les plus grands poètes de l'époque, beaucoup d'entre eux ne savaient ni lire ni écrire. C'est incroyable. C'était les plus grands lettrés, entre guillemets les plus grands littéraires, les plus grands poètes. Et pour certains, ou pour beaucoup d'entre eux, ils ne savaient ni lire ni écrire. Pourquoi ? Parce que tout était des choses de mémoire, yani. On mémorisait les choses. On apprenait les choses, on les écoutait, on les apprenait, c'est tout. Mais on n'avait pas de support écrit, ou on n'apprenait pas la lecture. Non. Idan, le professeur Hassim, en vérité, dans ce hadith, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, puisque la plupart d'entre nous ne savons ni lire, ni écrire, ni calculer, cette minorité de savants, ils nous disent, c'est comme si le professeur Hassim nous dit, si je vous disais, si le professeur Hassim nous dit, à une majorité de gens qui ne savent ni lire, ni calculer, ni écrire, vous devez absolument vous baser sur la science, sur le calcul, sur la lecture, sur l'écriture pour déterminer le moi, je vais vous rendre les choses difficiles. Donc, facilitons les choses. Le moi, c'est soit 29, soit 30. Maintenant, est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui ? Déjà à l'époque, comme Abu al-Abbas ibn Suraj, comme Ibn Qutayba, comme Mutarif ibn Abdillah, qui ont vécu les premiers siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes considéraient que déjà à leur époque, ça n'avait plus cours, que la science s'était répandue, que les gens commençaient, pour la plupart d'entre eux, à apprendre les béabas de la lecture, de l'écriture. Donc ils disaient, non, maintenant qu'on est dans une majorité des gens qui avons accès à cette science, eh bien évidemment, on peut utiliser cette science pour déterminer le début du mois ou la fin du mois. Donc en vérité, la divergence, elle tourne autour de ça, de la compréhension de ce hadith. Et elle tourne autour d'une chose, et ça c'est la principale cause de la divergence, peut-on ou non utiliser le calcul astronomique ? La principale cause de la divergence, elle est là. Tu peux lire et des pages, rentrer dans les débats, les polémiques, le noyau, il se trouve ici. Il se trouve où ? Il se trouve dans une question à laquelle tu dois trouver une réponse. Et à laquelle les savants, pour laquelle les savants, ils ont divergé dans la réponse qu'ils leur donnent. C'est, est-ce que, lorsque le professeur Hassan nous a demandé de regarder, d'observer la lune pour déterminer l'entrée du mois, est-ce que c'est un hukm, un décret, qui est un décret uniquement rituel, un acte d'adoration, dans lequel il n'y a pas de causalité, de illah, ce que les juristes appellent la illah, de causalité compréhensible pour nos cerveaux. Il y a des choses qu'on fait dans l'islam où notre raison, entre guillemets, n'a pas lieu d'être. C'est des actes de soumission purement et simplement. C'est juste pour se soumettre à Allah. Pourquoi tu fais 4 raka'at ad-dhuhr ? Et pourquoi tu n'en fais pas 4 al-maghrib, tu en fais juste 3 ? C'est comme ça. C'est pour montrer que tu te soumets à Allah Azza wa Jal. Allah a décrété que c'était 4 ad-dhuhr, 3 al-maghrib, tu les fais. Il n'y a pas de illah spécifique. Il y a une hikma, une sagesse. Faire la différence entre la hikma, la sagesse, et la illa, la causalité. La hikma, Allah Azza wa Jal, seul lui la connaît. La illa, c'est ce qu'on peut connaître quand on est encore vivant. Et ce qui nous aide à comprendre le hukm, le décret juridique, le décret religieux. Et donc les savants, ils nous disent, ici l'observation oculaire de la lune, est-ce qu'elle est quelque chose de purement rituel qu'on ne peut pas comprendre par nos raisons. Le professeur Hassim nous a dit, regardez et c'est tout. C'est-à-dire déterminer le mois du Ramadan sans entrer à travers la vision oculaire de la lune, et c'est juste un acte d'adoration qu'on ne peut pas comprendre pourquoi on fait comme ça. Ou alors, non, bien sûr que c'est un acte d'adoration, mais c'est aussi autre chose, c'est un moyen d'arriver à quelque chose. C'est un moyen d'arriver à quoi ? Un moyen d'arriver à pouvoir le moins se tromper possible quand on détermine l'arrivée du mois de Ramadan ou la fin du mois de Ramadan. Et la minorité des savants, ils nous disent, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le moyen qui était le plus sûr à l'époque de moins se tromper pour déterminer l'arrivée et la fin du mois, c'était tout simplement d'observer. J'ai la preuve, je l'ai vu la lune. Parce que tous les autres moyens, même l'astronomie, je vais y revenir, étaient des moyens qui n'étaient pas sûrs du tout. Puisque évidemment, depuis des siècles, on a évolué dans la science. Et avant, l'astronomie, c'était plutôt de l'astrologie. C'était les devins et les astrologues qui avaient cette science, et c'était des choses aléatoires qui n'ont rien à voir avec la précision de l'astronomie et des calculs astronomiques aujourd'hui. Et donc, cette minorité de savants qui nous dit On peut, et pour certains on doit même, se baser sur le calcul astronomique pour déterminer l'entrée et la fin du mois de Ramadan. Ils disent parce que la vision oculaire, c'était le moyen le plus sûr, avec le fait d'attendre 30 jours, pour annoncer l'arrivée du mois de Ramadan. Ils disent par contre aujourd'hui, le moyen le plus sûr, c'est le calcul astronomique sans aucun doute. Et ça c'est vrai. Il y en a le calcul astronomique aujourd'hui, il est arrivé à un tel degré qu'on s'est déterminé au millième de seconde près la naissance de la Lune. Qu'on s'est déterminé le soir du 29e où la Lune sera visible, à quel endroit et à quelle heure. Et on s'est même précisé en plus avec la météo, par contre là on pourrait éventuellement la voir, mais il y aura des nuages, donc ce n'est pas la peine d'essayer. On ne pourrait pas la voir. Aujourd'hui la science elle dit ça. Par contre, avec la vision oculaire, qui était le moyen le plus sûr au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce que la probabilité d'erreur dans l'annonce du mois de Ramadan aujourd'hui, elle est plus forte avec, en se basant uniquement sur la vision oculaire ou en se basant uniquement sur le calcul? Sans aucun doute, la probabilité d'erreur, elle est plus forte quand on se base uniquement sur la vision oculaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pour ça que je vous dis, la question en fait elle réside là, elle ne réside pas dans le est-ce qu'on va faire des erreurs, on ne va pas faire des erreurs. Est-ce que, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de regarder la lune, est-ce que c'est un acte rituel d'adoration qui est dénué de causalité, qu'on ne peut pas comprendre? Ou alors non, c'est une causalité, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'observer parce que c'est un moyen de déterminer le plus sûrement possible l'arrivée du mois. Si tu considères que c'est purement un acte d'adoration, rien d'autre sans causalité, alors oui. Même si tu te trompes, vas-y. Même si avec la vision, de temps en temps, on se trompe, c'est parce que c'est comme ça. C'est un acte d'adoration. Mais si tu considères que non, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait donné à l'époque le moyen le plus sûr, mais si un autre moyen est encore plus sûr, alors il faut l'utiliser. Alors dans ce cas-là, sans aucun doute qu'il faut aussi utiliser le calcul astronomique. Il y a des savants contemporains qui ont évidemment appuyer cet avis de dire que le calcul astronomique est extrêmement important de nos jours et qu'il faudrait l'utiliser. Parmi ces savants, Mustafa Zarqa, Ahmed Shakir, Rachid Reda, qui eux aussi ont défendu le fait qu'il faille se baser sur le calcul astronomique pour déterminer l'arrivée du mois de Ramadan. Et on va s'arrêter sur ça. Et des savants ont pris un avis du milieu entre les deux. Comme l'imam al-Qaradawi dans son livre Fiqh al-Siyam, ou comme l'imam parmi les anciens Ibn al-Subki, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eux, ils nous disent, on ne peut pas mettre de côté le calcul astronomique parce qu'il est extrêmement précis, mais on ne doit l'utiliser que pour nier la vision de la Lune. Qu'est-ce que ça veut dire nier la vision de la Lune? C'est-à-dire quand on sait, avec le calcul, avec la science, de manière certaine, que tel jour il n'a pas pu être vu à tel endroit, quand un pays nous dit on l'a vu, ce qui est beaucoup le cas aujourd'hui, ben, arrête s'il te plaît. Ah, arrête. C'est ce qui s'est passé, enfin c'est pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, des pays arabes, comme beaucoup de pays du Golfe, le principal pays du Golfe, qui fournit beaucoup de pétrole, bref, vous avez compris lequel, il a demandé aux musulmans du monde d'observer le ciel le soir où on savait que la lune elle était encore née nulle part dans le monde. La science te dit avec précision, la lune elle n'est pas encore née, et toi tu dis aux gens regardez, on va peut-être voir la lune. Et donc ces savants qui prennent cet avis du juste milieu, ils disent d'accord pour la vision, mais il faut utiliser la science au moins pour dire bon, là ne regardez pas, ça sert à rien. Ou pour dire, quand quelqu'un vient nous dire on l'a vu, bah arrête, on sait, la science nous a dit qu'il fallait pas, qu'elle n'était pas encore née ou qu'on n'a pas pu la voir ce jour-là à tel endroit. Par contre, ils disent, mais on attend quand même de la voir pour annoncer le mois. Parce que pour eux, ce n'est pas une histoire de la lune est née ou elle n'est pas née, c'est est-ce qu'elle a été vue. C'est comme ça qu'ils le comprennent. Il faut qu'elle ait été vue par l'homme pour déterminer le mois. Donc ils disent, attendons qu'elle soit vue, mais utilisons la science pour éviter les erreurs et dire, non, le jour où je sais qu'elle ne peut pas être vue, ou les endroits où je sais qu'elle ne peut pas être vue, arrêtez de dire aux gens à cet endroit-là, regardez et observez quand même. Non, Ça, cet avis, comme on a dit, il a été défendu dans son ouvrage Fiqh Siyam par l'imam al-Qardawi, Hafidhahullah. Et si ça doit piquer et faire mal à ceux, à certains, quand ils entendent qu'on dise Hafidhahullah à un savant, eh bien qu'ils explosent. Pourquoi pas? Naam. Donc on va s'arrêter là, l'heure du couvre-feu approche. On va juste voir s'il y a des questions par rapport à tout ça. La semaine prochaine, Inch'Allah, on commencera le point de إذا رؤي في بلد فهل تلزم رؤيته البلدان الأخرى. Lorsqu'il est vu, lorsque la lune est vue dans un pays, est-ce que tous les autres pays doivent suivre même s'ils ne l'ont pas vue? Ou de nos jours, si elle est annoncée par un pays, est-ce que tous les autres pays doivent suivre? Ça, c'est le sujet qu'on verra la fois prochaine, Inch'Allah ta'ala. C'est Faisal.
Donc il y a plusieurs questions. La première question, la mosquée de Paris a publié une note disant que le vaccin n'amène pas le jeune car il était en intramusculaire. Actuellement, j'ai un traitement de vitamine en intramusculaire. Est-ce que mon jeûne sera annulé ou pas?
Non. Donc la question ici concerne les vaccins, ou plutôt les piqûres de manière générale, intramusculaires. Et ici, plus précisément, qui donne des vitamines, c'est ça? Qui prend des vitamines. Yani, l'avis le plus probable, on va parler de ce sujet, vous inquiétez pas en détail, Inch'Allah. Mais en tout cas, l'avis le plus probable pour répondre à cette question, c'est de dire que ça n'annule pas le jeûne parce que ça n'est pas nutritif et ça ne rentre pas par l'endroit habituel quand on mange, yani par la gorge et l'œsophage. Donc pour ces deux raisons, l'avis le plus probable, même s'il y a divergence, c'est que ça n'annule pas le jeûne, et donc c'est cet avis qu'il faut prendre, même si, dans ce cas, puisque c'est des vitamines, il faut voir si c'est un traitement qu'on peut aménager, c'est-à-dire qu'on peut prendre pendant la nuit, il est mieux, parce qu'on sait qu'il y a divergence, même si ceux qui ne sont pas de l'avis qu'on vient de donner, on considère que ce n'est pas un avis qui est prépondérant, mais malgré tout, pour prendre en compte, c'était le adab que nous donnaient les juristes, ce qu'ils appelaient « mura'at al-khilaf ». Prendre en compte la divergence. Quand tu es convaincu par un avis, prends l'avis qui te convainc. Mais si tu sais qu'en plus il y a une divergence et qu'il y a moyen que tu prennes ton avis qui te convainc tout en respectant l'avis des autres, fais-le. Subhanallah, comment ils nous éduquaient les savants avant. Hein. Et donc, dans ce cas-là, si on peut aménager la prise de cette piqûre pendant les horaires où on a le droit de manger et de boire, par respect pour la divergence, pour prendre en compte la divergence, alors on le fait. Mais si le médecin dit non, c'est à tel moment absolument qu'il faut le prendre, etc., c'est un traitement absolument important, il ne faut pas changer d'heure, khlas, yani, tu suis ce que le médecin dit, et pour la majorité des savants, il n'y a pas de jour à rattraper, le jeûne est quand même valable. Naam.
La question suivante, est-il possible de mettre de la crème hydratante lors du jeûne?
Alors pour la crème hydratante pour le jeûne, afwan, ici aussi, l'avis le plus probable est de dire que ça n'annule pas le jeûne, parce que ça n'est pas nutritif, encore une fois, et aussi et surtout parce que ça n'entre pas par l'œsophage et par la gorge, même si aussi ici il y a divergence, parce que c'est hydratant, même si c'est en vérité les crèmes, elles ne font qu'hydrater la peau et pas le corps. Et donc l'avis le plus probable, c'est que ça n'annule pas le jeûne. Wallahu a'lam. Mais ici aussi, si c'est pas un traitement médical, il est mieux de le prendre pendant la nuit, de se mettre cette pommade ou cette crème pendant la nuit. Et si on l'a fait pendant la journée, il n'y a pas de mal, wallahu a'lam.
Question suivante, quels jours de jeûne sont recommandés en dehors du ramadan?
Alors les jours de jeûne qui sont recommandés en dehors du ramadan, il y en a beaucoup. C'est les jeûnes facultatifs. Il y a tout d'abord, juste après ramadan, les 6 jours pendant le mois de Shawwal. C'est le mois lunaire qui suit le mois de ramadan. Ensuite, il y a les jours pendant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, et en particulier pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage, le jour de Arafah qui coïncide avec le 9e jour de Dhul-Hijjah. Ensuite, vous avez aussi pendant les 10 jours du mois de Muharram, il est recommandé de jeûner, et en particulier le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10e jour de Muharram. Ensuite, vous avez aussi les jours blancs, ce que le prophète sallam a appelé les jours blancs, c'est-à-dire 13, 14 et 15 de chaque jour, de chaque mois lunaire afwan, ou de manière générale, dans d'autres narrations, il y en a des 3 jours de chaque mois lunaire. Naam. Et après, il y a aussi la meilleure façon de jeûner, c'est de jeûner un jour sur deux. De jeûner un jour sur deux tout le temps, c'était, comme il est dit dans le hadith, Siyamu Daoud. le jeûne du prophète Daoud, alayhi salam. Le prophète a dit c'est le meilleur des jeûnes. Naam. Tout comme, même si la question n'a pas été posée, en face, on a des jours où il est déconseillé, voire interdit de jeûner. Comme le jour de Arafat pour ceux qui sont en pèlerinage. Nous, on a dit c'est un jour fortement recommandé de jeûner quand on n'est pas en pèlerinage. Mais quand on est là-bas à Arafat pour le pèlerinage, là, il est mieux de ne pas jeûner. Comme le jour de Eid. Le jour de Eid, il y a interdiction de jeûner. Il est fortement déconseillé de jeûner les jours de doute. Les jours de doute, c'est justement le 30e jour de Charban. Ce sont les jours de doute. Ensuite, il y a le samedi seul, où c'est un déconseillé, voire interdit en fonction des avis, ou le vendredi seul, déconseillé, voire interdit en fonction des avis. Non.
La question suivante, est-ce que l'on dit lors du iftar, l'invocation, on a dit donc avant de manger ou après avoir mangé?
Ça dépend de quelle invocation on parle, Yanni. Si on parle de l'invocation Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu faghfir lima qaddamtu wa ma akhart, celle-là on l'a dit avant de manger. Si on parle de l'invocation Alhamdulillahi dhahaba adh-dhama'u wa btallat al-uruq wa thabata al-ajru, inshallah ta'ala, celle-ci il est mieux de la dire juste après avoir bu le premier verre d'eau au moment où on rompt le jeûne. Wallahu a'lam.
Dernière question,
Fadal.
En règle générale, comment se passe le ramadan pour les personnes diabétiques?
Yani, tout dépend de ce diabète et tout dépend comment se passe le jeûne pour les diabétiques. Yani, tout dépend de ce diabète. Si c'est quelqu'un qui peut jeûner malgré son diabète, alors il jeûne. Et s'il doit prendre de l'insuline pendant sa journée, la majorité des savants considèrent que ça n'annule pas le jeûne, les prises d'insuline par piqûre. Naam. Mais il y a des formes de diabète qui empêchent le jeûne, qui mettent, ce type de diabétique, il va se mettre en danger s'il jeûne. Dans ce cas-là, évidemment, il ne jeûne pas. Et donc, dans ce cas-là, le diabète, c'est quelque chose de chronique, ça veut dire ça ne va pas s'améliorer par la suite. Donc, dans ce cas-là, il paye pour chaque jour non jeûné le repas d'un pauvre, wallahu a'lam. Naam. On va s'arrêter là, il y en a pris beaucoup de temps, il nous reste un quart d'heure avant le couvre-feu. Barakallahu fikoum pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.